Vous écoutez
RMC.
Mardi 4 octobre,
l'info sur RMC.
Excellent réveil à tous, il est 7h sur RMC et RMC Story, l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La 8e vague de Covid vous inquiète-t-elle? Les autorités sanitaires appellent à la vigilance. La présidente du nouveau conseil scientifique est l'invitée d'RMC ce matin. Le bras droit du président Alexis Kohler mis en examen, le secrétaire général de l'Élysée, soupçonné de conflit d'intérêts. Le foot, ni Oura, ni Ola, match à huis clos au Vélodrome ce soir. L'OM reçoit le Sporting Portugais en Ligue des Champions, les Marseillais qui n'ont pas le droit à l'erreur.
C'est l'événement de la matinée sur RMC, 7h40. Brigitte Autran, la présidente du Conseil scientifique Nouvelle Génération, est notre invitée.
Les autorités sanitaires appellent au retour des gestes barrières, à remettre le masque dans les transports en commun. La 8e vague est bien là et ça se traduit en chiffres. Près de 8700 cas, c'est 16% de plus par rapport à la semaine dernière. Des cas positifs évidemment. Et pourtant, cet automne, le Covid semble bien vous laisser indifférent. C'est ce qu'a constaté Vincent Chevalier dans les rues de Lyon pour RMC.
Cette nouvelle vague ne semble pas vraiment inquiéter les Lyonnais.
On a suffisamment d'outils pour faire face, on sait ce qu'il faut faire.
On vit avec tout au long de l'année. C'est un truc banal maintenant.
Il vaut mieux se prévenir. Avant, faire des gestes de barrière, ça coûte pas grand-chose.
Parmi les rares à porter un masque, Teresa, cette retraitée, a gardé certains réflexes.
Le masque quand il y a beaucoup de monde, le gel, le lavage des mains, qu'on essaye de ne pas trop faire de bisous à des personnes âgées.
Des habitudes, au contraire, abandonnées par Morgane.
Autant au début, on savait pas trop comment gérer la maladie ou autre, donc on avait tous un peu peur, on va dire. Mais maintenant, on vit avec.
Vu l'évolution de la situation, il faut tout de même être prudent.
Je suis pas bien, je suis un peu enrhumé, j'ai le nez qui coule, je fais atchoum. Je mets un masque.
Pascal Dureau, médecin généraliste, délégué national du syndicat MG France.
Un, je protège les autres. Deux, c'est un petit signal. Si vous êtes à côté de moi, mettez votre masque. C'est la même chose pour la grippe. Ce sera la même chose pour tous les virus qui, chaque année, font des pathologies. Et puis pour les gastro-entérites, le lavage des mains, c'est aussi plus efficace.
Depuis hier, les personnes fragiles, les plus de 60 ans et les soignants peuvent également bénéficier d'un nouveau vaccin contre le variant Omicron.
Et notez-le donc, c'est l'une des toutes premières prises de parole de cette nouvelle présidente du Conseil scientifique. N'hésitez pas bien sûr à venir l'interpeller directement au 32-16. 7h02 sur RMC, le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, rattrapé par la justice.
Le secrétaire général de l'Élysée mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Les faits remontent à 2010, alors qu'il occupait un poste à responsabilité au ministère de l'économie. C'est l'association Anticor qui a relancé l'enquête il y a 2 ans. Les précisions de Sébastien Krebs.
Alexis Kohler était en pleine réunion à l'Élysée avec des cadres de la majorité juste avant que sa mise en examen ne soit rendue publique. Il n'en a pas dit mot à ses visiteurs. Au palais, pas de commentaires. Le secrétaire général reste à son poste. Il est présumé innocent et conteste les faits. Mais politiquement, ça commence à faire beaucoup, s'interroge un élu macroniste. Après Éric Dupond-Moretti, ça devient compliqué. Kohler, c'est l'homme de l'ombre, au plus proche du chef de l'État, parfois surnommé le vice-président. Il occupe le bureau voisin. Les faits reprochés remontent à ses fonctions passées au ministère de l'Économie. Il est accusé d'avoir traité de dossiers stratégiques avec l'armateur MSC, alors même qu'il a des liens familiaux avec l'actionnaire. Une première enquête a été classée sans suite, mais les investigations ont repris. Alexis Kohler a été entendu il y a 10 jours. Son avocat promet qu'il démontrera son innocence.
Sébastien Krebs du service politique d'RMC. Une rentrée marquée par les affaires du côté de la France insoumise. Nouveau tournant dans l'affaire Adrien Quatennens. Son épouse a déposé plainte la semaine dernière. Le député du Nord avait reconnu l'avoir giflé dans un contexte de divorce difficile. Adrien Quatennens qui n'a pas fait sa rentrée parlementaire hier, alors que commençait l'examen de la réforme sur l'assurance chômage dans une ambiance absolument survoltée. Un premier dossier chaud avant l'arrivée d'encore plus chaud. L'explosive réforme des retraites. Déjà, un front commun côté syndicat. 8 organisations syndicales ont fixé leur ligne de conduite lors d'une réunion hier soir à laquelle participait Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Écoutez-le.
Nous irons à la concertation. Nous souhaitons que la concertation soit loyale, transparente. 2, nous réaffirmons fort et clair que sur l'âge légal, la durée de cotisation, nous ne serons pas présents. Et que nous nous opposerons fortement à ces mesures. Il y a une unité, puisque c'est quand même la troisième fois que l'intersyndicale se réunit, qu'il y a déjà une intersyndicale prévue au mois d'octobre. Donc ça veut dire que nous sommes effectivement extrêmement unis. Il y a une opposition forte et nous prendrons nos responsabilités le cas échéant.
travailler plus, la mesure CRISP, travailler plus longtemps chez nos voisins belges. On a été plus prudents et on a choisi une réforme beaucoup plus consensuelle. La possibilité de passer à la semaine de 4 jours, votée la semaine dernière. Je pense que la proposition va en laisser songeur plus d'un en France. Déjà, selon une enquête du Figaro ce matin, les 2/3 des 18-24 ans y sont favorables. En Belgique, Alfred Orange pour RMC vous explique comment ça va se passer.
À Bruxelles, Camille, fonctionnaire, s'y voit déjà.
Surtout que avoir un week-end de 2 jours, au final, c'est assez court.
Pour y arriver, cette chargée de communication va devoir ramasser ses 38 heures hebdomadaires en 4 jours au lieu de 5. Pas de quoi l'effrayer.
Le fait de faire 10 heures par jour est tenable parce que c'est déjà quelque chose qui se passe.
Les employeurs aussi disent y trouver leur compte. Béatrice Delphine Diaz dirige une entreprise de 6 salariés à Bruxelles.
Je pense que ça apporte une motivation par rapport à l'employé. À partir du moment où le résultat est là, les clients sont satisfaits et l'employé fait son travail, tout le monde y gagne et qu'il y a une satisfaction générale.
L'entreprise peut refuser cet aménagement aux salariés, mais elle doit le justifier et ça change tout pour Mathieu Billet, député belge de centre droit.
C'est un changement de paradigme parce que d'habitude, la relation de travail se fait à la demande de l'employeur et c'est l'employé qui répond si oui ou non finalement il accepte. Ici, c'est clairement une liberté qui est conférée aux travailleurs.
Cette mesure a aussi ses détracteurs. Certains partis d'opposition redoutent que la loi légalise implicitement la journée de 10 heures.
C'est l'information de la nuit. Grosse frayeur au Japon. Un missile balistique nord-coréen a survolé le pays. Le tir fait partie d'une campagne d'essai intensif lancée par Pyongyang. Heureusement, aucun blessé, aucun dégât. Acte condamné par la communauté internationale. Et décidément, la Coupe du Monde au Qatar ne passe pas en France. Paris a décidé qu'elle aussi, elle ferait l'impasse. Pas de fan zone, pas d'écran géant. C'est la 8e grande ville qui décide de boycotter l'événement pour des raisons écologiques et sociales.
En Ligue des Champions, l'OM affronte le Sporting Portugal ce soir.
Et ça sera sans supporters, match à huis clos au Vélodrome. Punition de l'UEFA après une série d'incidents avec des supporters. Un obstacle supplémentaire en tout cas pour les Marseillais qui n'ont toujours pas inscrit le moindre but dans la compétition, Florent Germain.
Oui, un stade de Vélodrome vide, la carte postale est loin d'être idéale pour jouer son avenir en Ligue des Champions. L'entraîneur marseillais Igor Tudor espère que son équipe ne sera pas trop perturbée par ce huis clos.
Non dovrebbe cambiare.
Le huis clos ne devrait pas avoir d'importance. Nos supporters vont nous manquer, mais il faut l'accepter. Le plus important, c'est de se concentrer sur nous et de faire un bon match.
Marseille s'était fait une joie immense de retrouver de grandes ambiances européennes. La fête est donc un peu gâchée. L'attaquant olympien Amin Harit reconnaît que ce match n'aura pas la même saveur sans les supporters.
C'est pénalisant. Je pars avec un ballon en contre-attaque, t'as 65 000 personnes qui poussent derrière toi, ça va pas forcément te donner de la puissance physique en plus, mais ça va créer quelque chose qui va faire que tu vas peut-être te surpasser, alors que voilà, quand tu joues et qu'il n'y a pas de bruit et que tu entends tout ce qui se passe à côté de toi, c'est pas plaisant. Franchement, c'est dommage.
Orphelin de son 12e homme, l'OM n'a pas le choix et doit absolument gagner pour encore croire en ses chances de qualification.
Vous pourrez les encourager en direct, en écoutant RMC ou en regardant la télévision sur RMC Sport 1. Le match sera à suivre, évidemment, dès 18h45, dès le coup d'envoi. Le mot de la fin qui pourrait donner des idées à certains. À Los Angeles, pour limiter les dégâts liés à la sécheresse, les maisons des stars ultra consommatrices d'eau sont équipées de limitateurs. Concrètement, quand Madonna a trop arrosé sa pelouse, on lui coupe le robinet et tant pis pour sa douche. Drastique et apparemment c'est efficace.
Ah, c'est extraordinaire.
Nous on avait la polémique sur les jets, ils ont les limitateurs d'eau.
Je préviens, on a perdu Charles, il est, je sais pas.
Je refuse de donner mon avis sur la pelouse de Madonna. Je veux bien avoir un avis sur beaucoup de choses.
1600 stars sont équipés.
Ah bah, on fait des pelouses.
Quoi que Charles a une autre idée. Merci beaucoup Marguerite pour ce journal. Il est 7h09, je vous demande pardon.
RMC s'engage pour vous.
Allez, on reprend nos esprits. RMC s'engage pour vous. Amélie Rosig, bonjour chère Amélie.
Bonjour Apolline.
Vous avez été contactée par une auditrice qui n'arrive pas à faire valoir ses droits auprès des impôts.
Nathalie Gisbert, elle travaille à la Poste. À 57 ans, elle est mariée et propriétaire de son logement. Au mois de mars, elle reçoit un courrier de l'administration fiscale qui lui apprend qu'elle posséderait une autre maison dans la même commune à moins d'un kilomètre de chez elle.
Cette adresse, je ne la connais absolument pas. Je ne possède ni garage ni quoi que ce soit à cette adresse-là. Donc, j'ai pris ce courrier et je me suis déplacée dans mon centre des impôts où j'ai vu un agent qui a fait suivre, du moins je le supposais, ma demande.
Sauf que début septembre, elle reçoit cette fois-ci un avis de taxe foncière, 1117 euros pour cette fameuse maison qui ne lui appartient toujours pas.
Le problème que j'ai, c'est que je n'ai rien pour prouver que je ne suis pas propriétaire. C'est kafkaïen comme situation, parce que c'est la personne qui a acheté qui a les papiers. Alors moi, comme je dis, je veux bien payer une taxe foncière si on me donne l'habitation avec, etc.
Alors Amélie, on le voit bien, Nathalie, elle prend les choses avec le sourire, mais enfin, en attendant, elle est quand même coincée.
Oui, parce qu'elle a beau appeler, envoyer des mails, se connecter au site des impôts en ligne, rien ne bouge. Nathalie, elle a carrément mené sa petite enquête. Elle a réussi à joindre au téléphone la véritable propriétaire de la maison qui lui a promis de faire le nécessaire avec son notaire, sans succès pour l'instant. Nous avons donc, nous, contacté la direction générale.
Elles sont obligées de se débrouiller entre elles.
Exactement, fou, exactement. Donc nous, on a contacté la direction générale, évidemment, des finances publiques. Et ce bien a été attribué à Nathalie par erreur, nous dit-on, un problème a priori de saisie informatique. Grâce à notre intervention, en tout cas, la situation est en train d'être régularisée. Notre auditrice ne sera pas prélevée pour la taxe foncière en question et on nous a assuré que l'erreur ne se reproduira pas l'année prochaine. L'administration doit en revanche désormais réaffecter la maison au bon propriétaire et ça pourra prendre du temps.
Mais en fait, vous avez réalisé, d'ailleurs, Amélie, en enquêtant, que les services sont assez dépassés. Hein.
Absolument, en particulier ce qu'on appelle le service de publicité foncière. C'est celui qui est chargé d'enregistrer le changement de propriétaire quand il y a une transaction immobilière, la vente d'un bien, par exemple. Un sénateur a d'ailleurs alerté le gouvernement cet été sur des délais pouvant dépasser un an et demi. Le ministère de l'économie est conscient du problème. Il a répondu il y a quelques jours. Le service fait face à de grosses difficultés depuis 2017, auxquelles se sont ajoutées le Covid et les départs en retraite. Bercy assure mettre tout en œuvre pour améliorer la situation. Et c'est justement dans cet objectif que le gouvernement a lancé il y a un an un nouvel outil sur la plateforme impots.gouv.fr. L'onglet s'appelle « Gérer mes biens immobiliers » et il vous permet de déclarer des changements ou des erreurs et d'accélérer ainsi le traitement de vos dossiers. Donc n'hésitez pas à y aller. Pour le moment, elle reste assez peu connue.
Amélie Rosic qui nous tient donc par la main, y compris pour remplir notre feuille d'impôt. Merci Amélie. Et vous connaissez bien sûr le chemin, l'adresse. C'est RMC pour vous, @rmc.fr. Il est 7h12.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, numéro 2 de l'Élysée, fonctionnaire le plus puissant de France, est mis en examen par la justice dans l'enquête sur ses liens avec le transporteur MSC qui a été fondé et dirigé par des membres de sa famille. Tout a commencé avec une plainte de l'association Anticor. Je reçois sa présidente, l'avocate Élise Van Beneden, dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Soyez les bienvenus sur RMC, 7h15.
Le témoin RMC.
Le témoin, c'est vous, Élise Van Beneden, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris et vous êtes présidente de l'association Anticor. Votre plainte, qui a été déposée en janvier 2020, a abouti le 23 septembre dernier, mais on l'a appris hier, avec la mise en examen du numéro 2 de l'Élysée, Alexis Kohler, pour ses liens avec la société MSC, qui est l'un des plus gros transporteurs de conteneurs dans le monde. Concrètement, qu'est-ce que lui reproche la justice ?
Alors aujourd'hui, Alexis Kohler, qui est effectivement le numéro 1 de l'administration française.
Hein, fonctionnaire le plus puissant de France.
Absolument. Est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt, ça consiste, quand on est en charge d'une mission de service public, à laisser des intérêts personnels interférer avec les décisions publiques qu'on a la responsabilité de prendre.
Qu'est-ce qu'il aurait pu faire comme prise d'intérêt? Quel moment est-ce que ça touche? Est-ce que ça touche le moment où il est à l'Élysée ou ça touche le moment où il travaillait à Bercy aux côtés d'Emmanuel Macron?
C'est très long et diffus dans le temps en fait. Hein. Les premiers reproches qui lui sont faits, ça remonte à 2008, quand il était à l'Agence de participation de l'État. Ça a continué puisqu'après il a pris des responsabilités en tant qu'administrateur dans une société qui s'appelait STX France et au Port du Havre, qui sont deux grosses sociétés qui ont des interférences avec MSC, puisque MSC est une multinationale qui est devenue, il me semble, la plus grosse entreprise de fret du monde.
et qui donc appartient à des cousins, appartient et dirigé par des cousins. S'il l'avait mentionné, Alexis Kohler, c'est-à-dire que s'il avait dit, voilà, sur ce dossier-là, attention, j'ai des liens particuliers avec cette société puisque elle est dirigée par des membres de ma famille, alors il aurait pu se mettre en retrait, c'est ça ?
C'est ça. C'est pas qu'il aurait pu, il aurait dû. En fait, quand on est en charge d'une mission de service public et qu'on a des intérêts personnels, ce qui est normal, hein, on a tous une famille, des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas. Mais quand on a un intérêt personnel, il faut le déclarer et il faut se déporter. C'est exactement ce qu'Alexis Kohler aurait dû faire et qu'il n'a pas fait.
Donc ça, c'est la partie conflit d'intérêts. Il y a un autre volet de l'enquête. Cette fois, c'est pendant la campagne de 2017, Alexis Kohler, qui était à la fois directeur de campagne d'Emmanuel Macron et directeur financier de MSC, c'est ça ?
Oui, absolument. Ça pose plusieurs questions et ça pose notamment une question qui n'a pas été relevée, mais qui est celle de faire travailler quelqu'un qui est rémunéré par une entreprise pour la campagne politique d'un candidat à la présidentielle.
Est-ce qu'il doit démissionner pour vous ?
Oui, il doit démissionner parce que c'est une affaire qui est très importante, qui affecte profondément le pouvoir, parce que les dirigeants politiques doivent être exemplaires et que même si Alexis Kohler est présumé innocent, il a tout de même fait l'objet d'une mise en examen. Une mise en examen, c'est grave parce que ça veut dire que les juges d'instruction, qui sont des juges indépendants, dont l'indépendance est protégée par la Constitution, ont considéré qu'il y avait des faits concordants laissant penser qu'il avait commis cette infraction pénale. Donc effectivement, c'est très grave. Si vous voulez, il est censé montrer l'exemple à toute l'administration française. Donc le message est terrible. Il devrait à minima démissionner le temps que cette affaire judiciaire soit traitée et si je l'espère, il est innocenté, reprendre des responsabilités publiques plus tard.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de banalisation de la mise en examen quand on voit que le ministre de la Justice lui-même est mis en examen ?
Oui, c'est vrai. Bah, avant, en fait, en France, on raisonnait selon la jurisprudence Balladur, c'est-à-dire que quand un responsable public était mis en examen, il démissionnait. C'est ce que Emmanuel Macron disait toujours en 2017. Il disait
oui, si lui-même pendant sa campagne, on a réentendu évidemment les extraits depuis cette double mise en examen, donc mise en examen du ministre de la Justice et mise en examen du secrétaire général de l'Élysée qu'on a appris de manière concomitante hier. Et Emmanuel Macron lui-même, candidat, avait dit un ministre mis en examen doit démissionner.
Oui, à l'époque, il a promis à la France une République exemplaire et finalement on voit qu'aujourd'hui la République elle est pas du tout exemplaire, au contraire elle donne une très mauvaise image. Il y a eu une quarantaine de personnes autour d'Emmanuel Macron qui ont été mises en cause depuis son élection en 2017, donc c'est terrible pour l'image qu'ont les Français du gouvernement et du pouvoir en général, et d'ailleurs c'est terrible pour la démocratie en général parce que ça fait que les citoyens qui ont de moins en moins confiance en leurs responsables politiques et administratifs par exemple ne vont plus voter.
Merci Élise Van Beneden d'être venue dans ce studio. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris, présidente de l'association Anticor, votre association qui est donc à l'origine de cette plainte déposée qui a abouti sur la mise en examen d'Alexis Kohler, dont vous demandez donc la démission. 7h19 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans 20 minutes, alors faudrait-il remettre le masque? 8e vague de Covid, les cas se multiplient. Brigitte Autran, qui est la toute nouvelle présidente du comité scientifique, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Et mon invitée, elle s'est encore très peu exprimée depuis sa nomination. N'hésitez pas à venir l'interpeller. Vous avez des questions sur la vaccination, sur les gestes barrières. Vous appelez le 32-16. Et puis dans un instant, il y aura l'économie avec Emmanuel Le Chypre et puis Arnaud Demanche qui pirate le 32-16. A tout de suite.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
Mais avant cela, l'indiscret du service politique. Romain Cluzel, bonjour Romain.
Bonjour Apolline.
Ce matin, vous nous emmenez dans les coulisses du cocktail qui a été organisé hier soir à Matignon.
Oui, imaginez-vous Apolline, 200 convives invités dans l'un des grands salons de Matignon, dans l'assistance des députés et des sénateurs de la majorité, tous les présidents de groupe et plusieurs ministres, dont Éric Dupond-Moretti qui était là malgré ses ennuis judiciaires. Tout ce beau monde a pu profiter du buffet plutôt bien garni, ambiance conviviale et détendue autour d'un verre de vin de Bourgogne et des petits fours, crevettes, fromage ou saucisson brioché, je vous laisse choisir. Le Premier ministre a tout de même parlé politique dans un discours assez bref, à peine 5 minutes, avec deux mots-clés, transparence et cohésion. Elisabeth Borne a appelé à l'unité de la majorité face aux prochaines semaines agitées pour faire passer le budget, la réforme de l'allocation chômage ou encore celle des retraites.
Bon, cette réunion était quand même très politique, il y avait des invités inattendus.
Oui, plusieurs sénateurs issus de l'UDI et du centre-gauche étaient présents hier soir, ce qui en a surpris plus d'un. Les macronistes étaient en minorité hier, sans porte un parlementaire. En tout cas, les principaux nombreux intéressés ne boudent pas leur plaisir. On va pas se plaindre d'être bien traité. Ça fait 5 ans qu'on est un peu tricards. On n'avait pas besoin de nous. Là, le gouvernement discute avec nous. On va pas refuser de causer, se délecte un sénateur. L'opération drague de l'UDI est clairement lancée, avec l'espoir pour Horizon, le parti d'Edouard Philippe, de récupérer quelques troupes supplémentaires dans la coalition gouvernementale. Mais un cadre de Renaissance reste dubitatif. Elisabeth Borne veut les amadouer. Certains voteront des textes, mais sans rejoindre la majorité.
C'était donc les indiscrets du service politique. Et puis notez mon invité politique à 8h30 tout à l'heure. Ce sera Marine Le Pen. Marine Le Pen, donc à 8h30 sur RMC et BFM TV.
Apolline Matin.
Bientôt 8h30, l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, au moment où se discute la réforme de l'assurance chômage. Bientôt 7h30, tout à fait, vous avez raison.
Les chiffres,
c'est plutôt votre fort.
Vous en mettez toujours un peu
c'est
plus.
C'est plutôt votre fort. On apprend que 25 à 42% des personnes qui seraient en droit de percevoir des allocations chômage ne touchent aucune indemnité.
Eh bien oui, c'est une première, cette étude du ministère du Travail. Cela représente entre 390 000 et 690 000 personnes. C'est quand même 10% des personnes inscrites à Pôle emploi. C'est un taux de non-recours, ça s'appelle le non-recours, quand on ne touche pas les allocations auxquelles on a droit, assez proche de celui qu'on peut observer pour les autres prestations sociales, 34% pour le RSA, 32% pour les retraites.
Et quel est le profil de ces personnes qui donc renoncent à leurs indemnités chômage ?
Et là, c'est pas tellement une question de milieu social, d'âge ou de sexe, c'est en fait le type de contrat de travail qui fait la différence. En général, quand vous êtes en contrat court, soit en CDD, soit en intérim, eh bien, vous vous inscrivez moins à Pôle emploi, parce que vous avez sans doute l'espoir de retrouver aussi plus vite un travail. En revanche, quand vous êtes en situation de rupture conventionnelle ou de licenciement économique, là, il y a moins de 10% de gens qui n'obtiennent pas,
qui ne toucheraient pas leurs indemnités. Pourquoi ces personnes ne franchissent pas la porte de Pôle emploi ?
Alors, deux raisons principales. La première, c'est la méconnaissance des règles d'indemnisation. Il y a des personnes qui pensent qu'elles ont peu travaillé, qu'elles n'ont pas droit à ces indemnités chômage. Et puis, la deuxième raison, c'est l'arbitrage un peu coût-bénéfice de l'inscription. Ça prend du temps, c'est long, ça va pas me rapporter grand-chose. Est-ce que ça va pas me stigmatiser ? Pour l'instant, le projet de versement automatique des prestations ne concerne que la prime d'activité, le RSA et les APL, et donc ça ne concernera pas les indemnités chômage.
7h25 donc sur RMC, et tout de suite c'est Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Demanche pirate le 32-16.
Arnaud Demanche qui pirate le 32-16. Bonjour Arnaud. Ce qui fait réagir ce matin, vous êtes donc passé au standard, c'est Netflix qui prépare une série sur Rocco Siffredi, l'acteur porno.
Oui, j'ai entendu ça hier. Bah oui, ils avaient le choix, ils hésitaient entre Rocco et PPDA, ils ont pris Rocco. Alors, on a un courrier de Netflix qui nous dit: cher Charlemagnien, nous avons bien reçu vos photos pour incarner la doublure de Monsieur Siffredi. Nous sommes très intéressés par votre candidature, d'autant que la directrice marketing, la comptable et la DRH de notre société nous ont complimenté sur vos prestations, ainsi que leur maman.
Oui.
Pourriez-vous nous envoyer quelques clichés supplémentaires, mais cette fois avec un objectif grand angle, car les Polaroïdes ne donnaient qu'une idée trop vague de l'ensemble. Merci cordialement, Catherine Mercier, Netflix, PS. Si vous êtes libre samedi soir, mon numéro est le 06 87 34. Je vous donnerai le courrier plus tard.
C'est noté, Catherine.
Rocco Siffredi nous a appelé. Écoutez, les biopics de Rocco, c'est la bonne idée, mais je vois pas ce que vous mettrez dedans. C'est pas passionnant, la vie de Rocco. Sur Netflix, on pourra pas mettre les scènes sympas avec les trois étudiantes ukrainiennes et tout. Il va rester quoi? Rocco, il fait le café. Rocco, il attend les chauffagistes. Rocco, il va au centre des impôts pour faire ses feuilles. Rocco passe l'aspirateur. Pour une fois que c'est pas moi qui me fais aspirer, ça change. Rocco, il a une vie normale. Voilà. Vous allez vous faire chier avec les biopics. Et puis, on a eu un autre message de Netflix qui nous dit: cher monsieur Le Chypre, c'est avec regret que nous ne pouvons retenir votre candidature pour incarner la doublure de monsieur Siffredi. Malgré des dimensions tout à fait honorables, nous avons retenu un autre candidat. Cordialement, Olivia Jousselin, Netflix. PS, pourriez-vous transmettre à Charles Magnin mon numéro personnel 0664? Mais quel tombeur, celui-là!
Oui, quel chargé tombeur.
Charles a un agenda rempli. Merci Arnaud.
Tout à l'heure.
Bien sûr, à 8h20 tout à l'heure. Il est 7h28, à tout de suite. 7h30 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à vous tous. Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Encore une polémique avec la chasse. Ce matin, cette fois, c'est un chasseur qui a été surpris, pris à tirer de l'autre côté de la route. On va vous raconter la contre-attaque des salariés de Camailleux après la liquidation. Eh bien, une action en justice se prépare contre leurs dirigeants. Et puis la stupeur, cette nuit, la Corée du Nord a tiré un missile balistique au-dessus du Japon. Panique générale et réactions indignées ce matin.
Les chasseurs font encore polémique ce matin.
Et cette fois, pour une vidéo tournée le week-end dernier dans la Drôme, c'est un militant anti-chasse qui a filmé un chasseur prêt à tirer de l'autre côté de la route pendant une battue, ce qui évidemment est formellement interdit. Romain Poisson nous raconte la scène pour RMC.
Caché derrière les broussailles, à quelques mètres au-dessus du niveau de la route, le chasseur cherche à rassurer le militant anti-chasse sur son vélo.
Ouais, ouais, mais vous inquiétez pas, j'ai la visibilité pratiquement à 360 degrés.
Et vous, ça veut dire que vous allez tirer à travers la route?
Ouais, mais par-dessus, on risque rien, de toute façon. Il passe par-dessus la voiture, par-dessus tout ce que vous voulez.
Sauf que tirer en direction d'une route est interdit.
Clairement, quelqu'un qui passe à pied ou en vélo ou en voiture se trouve pile dans l'axe de la balle.
Un comportement dangereux qui n'est pas isolé pour Pierre Rigaud, militant anti-chasse.
C'est de la délinquance des campagnes. Et cette délinquance des campagnes, elle est permise parce que les chasseurs se sentent tout-puissants, parce qu'ils savent qu'ils seront jamais contrôlés et que s'ils sont contrôlés, la sanction sera très faible.
Pas de généralité. Pour Rémi Gandhi, président de la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme, le comportement de ce chasseur est inadmissible et reste marginal.
On est devant un comportement individuel que je ne m'explique pas. Une faute grossière comme celle-ci, c'est comme si, un automobiliste découvrait qu'un feu rouge, on doit s'arrêter, un stop pareil, et qu'on ne roule pas à 160 dans un village.
Deux enquêtes sont en cours, une judiciaire ouverte par la gendarmerie, l'autre administrative lancée par la Fédération départementale des chasseurs.
Il y aura bien une réponse syndicale. Les 8 organisations acceptent finalement de participer à la nouvelle concertation du gouvernement avant la réforme des retraites en début d'année prochaine, en promettant de riposter si le projet touche à l'âge de départ ou à la durée de cotisation. La contre-attaque, je vous le disais, s'organise chez Camailleux, l'ancienne Nordis qui a définitivement fermé, c'était samedi dernier, et qui laisse 2600 salariés sur le carreau. Des salariés qui en veulent à leur ancien employeur, jugé responsable de la liquidation judiciaire et des 240 millions d'euros de dette. C'est ce qu'ils disent. Ils se rassembleront ce matin devant le siège de l'entreprise à Roubaix pour contre-attaquer donc devant la justice, comme nous l'explique Mao Becker-Gagné pour RMC.
Et pour les salariés, c'est clair, cette faillite n'est pas liée au Covid ou à la situation économique, mais aux mauvaises décisions de la direction.
Il y a beaucoup de colère, mais il y a aussi de l'injustice sociale.
Thierry Civic a donné sa vie à Camailleux, 34 ans, dans cette maison. Désormais représentant syndical, il estime que la direction a volontairement laissé couler l'entreprise.
Il fallait prendre les bonnes décisions. Par exemple, il faut savoir que pendant 10 mois, nos magasins n'ont été alimentés qu'à 40%. Les stocks en magasin étaient insuffisants.
Mettre au clair les éventuelles fautes commises par les actionnaires, c'est la tâche de Fyodor Rylov, l'avocat de la CGT Camailleux. D'abord, il devra se procurer les documents pour prouver ses fautes.
Si en revanche la faillite est causée parce que des décisions ont été prises et qu'elles sont illégales, qu'elles sont irrégulières, qu'un certain nombre de fonds ont été pris chez Camailleux, eh bien, évidemment, nous en tirerons les conséquences et nous lancerons des actions contre les responsables.
Si ce matin, les salariés s'accordent sur une action en justice, le tribunal judiciaire sera saisi dès cette semaine.
La ruée sur les trains continue. Après l'été record, il y aura 20 000 places supplémentaires par semaine à partir du 15 décembre sur la ligne Bordeaux-Paris. C'est ce qu'annonce le directeur du TGV Atlantique ce matin dans le journal Sud-Ouest. C'est intéressant, fréquentation en hausse de 70% en 5 ans entre Paris et Bordeaux, mais la ligne est déficitaire à cause, c'est ce que dit la SNCF, du prix du péage pratiqué par le concessionnaire. Cette question ce matin, faut-il s'inquiéter de la 8e vague du Covid ? Apolline posera la question juste après ce journal à Brigitte Autran, la présidente du comité de veille sanitaire, le nouveau conseil scientifique en quelque sorte. Les indicateurs virent au rouge en ce moment, à la hausse en une semaine, plus 16% pour le nombre de cas, plus 34% pour le taux d'incidence. Et ce constat aussi de la Haute Autorité de Santé, Caroline Philippe pour RMC, la France n'est pas du tout à jour dans sa campagne de rappel du vaccin.
Moins de la moitié des personnes éligibles ont fait leur deuxième rappel. Au total, 17 millions de Français sont concernés, les plus de 60 ans, les immunodéprimés, les femmes enceintes ou encore les soignants. En EHPAD, seulement 4 résidents sur 10 ont leurs deux injections de rappel. Il faut corriger cela, nous dit la Haute Autorité de Santé. La HAS incite ceux qui ne l'ont pas encore fait à recevoir une dose de rappel supplémentaire avec les vaccins adaptés aux sous-variants d'Omicron. Ces nouvelles versions de Pfizer et Moderna permettent d'espérer une protection plus efficace et durable. Alors qu'une nouvelle vague épidémique, la huitième, débute, la HAS rappelle qu'il faut protéger les plus fragiles, sujets aux formes graves du Covid. Mais pas question pour l'instant d'inciter toute la population à se faire vacciner.
C'était la panique cette nuit au Japon. Pourquoi ? Parce que scène absolument surréaliste, la Corée du Nord a tiré un missile balistique au-dessus du Japon, missile qui a survolé le pays avant de finir dans le Pacifique, 4000 km plus loin. Énorme frayeur, un Romain Hook, pour des millions de Japonais.
Il est précisément 7h29, minuit 29 en France, quand les sirènes retentissent dans deux régions du nord du Japon. Les haut-parleurs de plusieurs villes diffusent le même message. La Corée du Nord semble avoir lancé un missile. Veuillez évacuer vers des bâtiments ou sous terre. C'est la Corée du Sud qui a sonné l'alerte un peu plus tôt. Un missile lancé à plus de 20 000 km/h qui aura mis à peine quelques minutes pour parcourir 4600 km selon le ministre de la Défense japonais.
Il semblerait que ce missile ait parcouru une distance jamais égalée jusqu'ici avant de terminer sa course dans l'océan Pacifique. C'est un nouvel acte barbare et nous le condamnons fermement.
Les États-Unis ont annoncé s'être entretenus avec le Japon et la Corée du Sud pour apporter une réponse dite appropriée et ferme de la part de la communauté internationale. La Corée du Nord a déjà procédé à 4 tirs de missiles balistiques la semaine dernière.
Je vous signale que l'Ukraine est candidate à l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2030. C'est la presse anglaise et espagnole qui le révèle ce matin en s'associant à la candidature commune de l'Espagne et du Portugal. Paris s'ajoute à la longue liste des villes qui boycotteront la Coupe du Monde au Qatar. Il n'y aura pas non plus d'écran géant dans la capitale en fin d'année comme à Marseille, Bordeaux, Lille ou Strasbourg. Et puis le Vélodrome Sandra Creux ce soir à Marseille qui jouera à huis clos son troisième match de Ligue des Champions contre le Sporting Lisbonne. C'est une sanction après les incidents lors du dernier match contre Francfort, horaire inhabituel. Ce sera 18h45 en fin de journée sur RMC et RMC Sport 1.
Le Quintet, Quentin, c'est à Auteuil.
Le 7 et le 3, les pronostics ce matin de la Dream Team des courses RMC. Quintet à 13h50 sur RMC Découverte. Le 7, Iban Rock en favori. Le 3, Zaki en outsider.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 7h37 sur RMC.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Plus de malades et de plus en plus d'hospitalisations. Où en est-on de la huitième vague du Covid ? On en parle dans un instant avec vous, Brigitte Autran. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes immunologue, vous présidez l'ancien conseil scientifique qui est désormais appelé COVARS. C'est le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. On y revient dans un instant et on amènera des auditeurs, Charles.
Mais oui, n'hésitez pas à poser vos questions à Brigitte Autran au 32-16. Je vois déjà Alain qui nous appelle, il a 50 ans, il voudrait savoir s'il doit se faire à nouveau vacciner. On va l'entendre dans un instant.
Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h40 sur RMC. Très belle matinée à tous.
L'invité du jour.
C'est vous, Brigitte Autran, rebonjour.
Bonjour.
Vous êtes immunologue et vous présidez le COVARS, c'est ce comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires qui a pris la suite du fameux comité scientifique, on se souvient, du professeur Delfraissy, qui était donc votre prédécesseur. C'est l'institution donc qui désormais s'occupe de la veille sanitaire. Une première question d'abord sur ce qu'on appelle désormais la huitième vague. Alors j'avais un peu oublié de compter, mais enfin, officiellement c'est la huitième vague. On en est où ? Est-ce que les chiffres du Covid sont aujourd'hui en augmentation ?
Absolument, ils sont en augmentation. Tous les indicateurs sont en augmentation. Le taux de séropositivité, de positivité, le taux d'hospitalisation, le taux de consultation aux urgences et même une amorce d'augmentation du taux d'hospitalisation en réanimation. Donc oui, nous sommes dans cette huitième vague.
Est-ce qu'on meurt encore du Covid aujourd'hui ?
Heureusement, les vaccins protègent de façon très importante contre les formes graves et contre les décès. Malheureusement, certaines personnes très fragiles, très âgées ou qui ont ce qu'on appelle un déficit immunitaire, qui ne sont pas capables de monter leur propre défense immunitaire, restent extrêmement sensibles et peuvent malheureusement faire des formes graves.
Il y a cette nouvelle vague de vaccination, enfin appel à la vaccination, campagne de vaccination qui a débuté hier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est-à-dire qui aujourd'hui doit se faire vacciner ou non ? À qui est-ce que ça s'adresse ?
Alors les indications sont très claires, elles ont été fixées par la Haute Autorité de Santé, elles avaient déjà été préconisées par le COSF, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, et par le précédent Conseil scientifique. Donc très clairement, ce sont les personnes de plus de 60 ans et toutes celles qui ont des facteurs de risque de forme grave.
C'est quoi les facteurs de risque ?
Alors, facteurs de risque, ce sont, ce que j'ai dit, des déficits immunitaires, des cancers, mais aussi une hypertension artérielle sévère, un diabète sévère, un surpoids sévère et d'autres pathologies respiratoires chroniques qui, il faut aller voir son médecin pour savoir si on est éligible ou pas à la vaccination. Une personne qui va bien et qui a moins de 60 ans, elle, pour l'instant, n'est pas éligible à la vaccination.
N'est pas concernée. On a Alain, d'ailleurs, qui nous a appelé au 3216. Alain, vous êtes dans le Vaucluse. Et vous vouliez poser votre question justement sur la vaccination. On vous écoute.
Bonjour Pauline, bonjour Mme Autran. Voilà, j'ai eu deux fois le Covid.
Oui.
Avec mes vaccins qu'il fallait, les trois vaccins. J'ai eu le dernier Covid, c'est cette année.
D'accord.
Sachant que je suis obèse et diabétique, j'aimerais savoir si je rentre dans la catégorie que vous avez citée il y a quelques minutes.
Alain, justement, donc, est-ce qu'il faut qu'il fasse à nouveau un rappel ?
Il faut surtout qu'il aille voir son médecin. Et son médecin connaît son état de santé, sait évaluer l'importance des risques et va lui dire s'il doit être vacciné ou pas.
Mais il semble quand même que dans les critères, vous aviez dit la question de diabétique. Hein.
Oui, mais vous savez, on ne fait pas de consultation par... télévision.
Par télévision ou par téléphone, mais Alain, donc vous êtes encouragé à aller voir votre médecin qui vous dira s'il faut, oui ou non, rentrer dans les clous donc de ceux qui doivent être à nouveau vaccinés. Est-ce qu'on doit se préoccuper encore de ce Covid ? Est-ce que franchement, c'est-à-dire qu'évidemment, on continue à calculer, on continue à vacciner, mais est-ce que c'est pas quand même sorti et tant mieux ?
Alors non, malheureusement, il faut encore se préoccuper du ou de la Covid. Pourquoi ? C'est parce que on n'est jamais à l'abri de l'apparition d'un variant qui pourrait être plus virulent. Et pour cette raison, il faut continuer à se faire tester quand on a l'impression d'avoir des symptômes ou quand on est contact. Il faut que les laboratoires puissent typer le type de virus qui est en cause, car sans ça, on ne saura pas si un variant méchant survient.
Il pourrait y en avoir encore ?
Oui, des il variants peut toujours méchants, y en avoir. Donc il y a des variants qui apparaissent un petit peu partout. La surveillance mondiale reste extrêmement importante, pourvu que les gens se fassent tester. C'est toujours le test.
D'accord, donc en cas de symptômes, voilà. En cas de soupçons, on va se faire tester.
Voilà. Et l'autre point très important, c'est qu'aujourd'hui, on a un traitement. Ce traitement, il est destiné aux mêmes personnes qui sont éligibles au vaccin, c'est-à-dire les personnes fragiles, qui peuvent faire des formes graves. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans le test and treat, de tester, traiter pour ces personnes-là. Donc oui, il faut continuer à être vigilant. Il y a des armes pour se battre. Il y a la prévention qui est très importante et il faut vraiment, vraiment, porter des masques.
Porter des masques ?
Oui.
Mais genre tout le temps, genre
non, je pense qu'on est vraiment là dans une vague ascendante et il reste recommandé de porter les masques de façon très fréquente dès qu'on est dans un environnement où la distanciation sociale n'est
si
pas respectée.
Si ça ne tenait qu'à vous, vous diriez bon, on pourrait même le réimposer dans certains espaces.
Aujourd'hui, le COVARS étudie ce point. Avec différents modèles, l'ensemble des pays européens, les États-Unis, l'Amérique du Nord étudient également ce point. Et aujourd'hui, personne n'a réintroduit l'obligation du masque, mais tout le monde l'étudie.
Tout le monde l'étudie et en tout cas, en attendant qu'éventuellement il redevienne obligatoire, vous encouragez très sérieusement tous ceux qui nous écoutent
à
le reporter. À le reporter donc dans les espaces clos. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, la grippe ou le Covid ?
Les deux. Les deux. La grippe parce que nous n'avons pas eu de forte épidémie de grippe depuis 2 ans. Et donc, notre immunité globale contre la grippe s'est probablement un petit peu amoindrie. J'encourage énormément à la vaccination anti-grippe, autant qu'à la vaccination anti-Covid.
Et pour le même genre de public ?
Et pour exactement les mêmes personnes. Et ces deux vaccinations peuvent se faire en même temps, sauf que le vaccin grippe n'est pas encore arrivé, alors que le vaccin Covid est déjà là et qu'il ne faut peut-être pas attendre. Et oui, la grippe peut être sévère, donc il ne faut pas oublier ce point.
Il ne faut pas oublier ce point. On sait qu'il va y avoir évidemment à la fois des conditions météo de l'hiver oui. qui sont à nouveau propices à la propagation de ces virus. Il va y avoir aussi des grands rassemblements, notamment autour des matchs. Alors même s'il n'y aura pas justement ces rassemblements en extérieur, puisque la plupart des villes ont renoncé à mettre des écrans géants, finalement, la conclusion, c'est que les gens vont les regarder chez eux ou dans des bars. C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour
oui,
vous.
Oui, mais c'est la vie. La vie, c'est ça fait
du monde, bien sûr.
La vie comprend des rencontres et il faut continuer à se rencontrer. C'est très important. Nous sommes aussi très préoccupés au COVARS par tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux, la santé mentale autour des crises sanitaires. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre la prévention et les gestes barrières, l'isolement. et le respect de la vie sociale qui est très important.
On a parlé de la grippe, on a parlé du Covid. Une question sur la grippe aviaire. On sait qu'elle se développe considérablement et de manière assez inédite en ce moment même dans l'ensemble de l'Europe. Et on a eu un cas de transmission de grippe aviaire de l'animal à l'homme recensé en Espagne. Je rassure ceux qui nous écoutent, l'homme va plutôt bien. Oui. Mais est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter?
Oui. Pour nous, c'est un élément important. Donc, nous faisons une hiérarchie des risques autres que ceux dont on a été saisi par le gouvernement. Et effectivement, la grippe est très haut placée, la grippe aviaire.
Une question, pour le coup, de stockage des vaccins et de ce qu'on fait des doses précédentes, puisqu'on le sait désormais, les professionnels de santé, vous l'avez dit, ont ouvert cette nouvelle campagne de vaccination avec des nouveaux vaccins qui sont adaptés et qui prennent en compte le variant Omicron. Mais il restait beaucoup de doses qui n'ont pas été utilisées des vaccins précédents. On en fait quoi?
Alors ça, c'est le gouvernement qui le décide. Vous savez que le COVAX, c'est un organe indépendant du gouvernement qui n'a pas à se prononcer sur ce point-là. Mais un point très important, c'est que ces vaccins restent bons, ces vaccins restent protecteurs. Et j'imagine qu'un certain nombre est envoyé dans des pays qui n'ont pas eu accès à la primo-vaccination.
Vous imaginez,
vous savez qu'en Afrique, dans certains pays d'Afrique, c'est moins de 10% de la population qui a été vaccinée. Et donc, il reste légitime de se vacciner aujourd'hui avec des vaccins de première génération quand on n'a pas été vacciné du tout. Voilà. Donc,
éventuellement une sortie possible pour ces vaccins qui n'auraient pas été utilisés. Merci en tout cas d'être venu pour l'une de vos premières interventions depuis que vous présidez donc le COVAR, c'est-à-dire le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, anciennement appelé le comité scientifique. Brigitte Autran, merci à vous. Il est 7h49.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Qu'est-ce que la justice reproche à Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron mis en examen la semaine dernière? Manque de transparence ou conflit d'intérêts? Les explications de Nicolas Poincaré, c'est dans un instant sur RMC.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus de Charles avec le film numéro 1 en ce moment au box-office en France.
Oui, si je vous dis Apolline, James Cameron et Pandora, vous me répondez?
Bah non, je suis nul, je l'ai jamais vu, c'est Avatar.
C'est ça, c'est
je l'ai
Avatar.
Je toujours pas vu, moi, le premier.
Le premier volet, sorti en 2009, qui vient de faire son retour sur les écrans de cinéma français. L'idée, c'est de faire monter un peu la sauce avant la sortie du deuxième volet en décembre. Disney a donc décidé de ressortir des cartons le premier tome et le succès est au rendez-vous en tête du box-office en France depuis 15 jours. Plus de 400 000 spectateurs, succès qui s'explique par l'attente autour du numéro 2, mais aussi par le fait que toute une génération, les jeunes de 20 à 25 ans, n'avaient pas vu Avatar au cinéma en 2009.
C'est mon cas, 20-25 ans, c'est
oui,
tout à fait
voilà,
ça.
Exactement, c'est Apolline. On peut aussi imaginer que certains se sont trompés en pensant que c'était le deuxième qui était déjà sorti et sont en fait allés voir le premier Avatar. En attendant, si vous voulez vivre ou revivre l'expérience Avatar sur le grand écran, dépêchez-vous Apolline. Le film disparaît des salles françaises dès ce soir. Quant au deuxième volet baptisé Avatar, la voie de l'eau, rendez-vous le 16 décembre.
Je m'étais dit que j'irais ce week-end avec mes enfants.
Et bien ce sera ce soir.
Une chose est sûre. Où que nous allions, cette famille.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53 et c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Expliquez-nous, Nicolas. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Expliquez-nous d'abord, qui est Alexis Kohler et ce qu'on lui reproche?
Alors, qui est-il? Tout simplement l'un des hommes les plus puissants de France. Il n'apparaît dans la lumière que lors des remaniements pour annoncer la composition des gouvernements depuis la cour de l'Élysée. Le reste du temps, il est dans l'ombre, occupant le bureau voisin de celui d'Emmanuel Macron au premier étage de l'Élysée. Cette fonction de secrétaire général, il l'occupe depuis le premier jour du premier mandat et il a été confirmé après la réélection du président au printemps dernier. Il est donc le bras droit d'Emmanuel Macron, mais en réalité, plus que cela, la presse l'appelle le président bis, ou bien le second cerveau du président, ou bien encore la garde de triage ou la tour de contrôle. Autant d'expressions pour expliquer qu'il est le plus proche collaborateur du président, omniprésent dans toutes les réunions importantes, toujours présent, mais généralement silencieux. Emmanuel Macron aurait beaucoup de mal à se passer de lui. Il a eu l'occasion de dire une fois que son secrétaire général était plus intelligent que lui.
Que lui reproche la justice ?
Alors, on lui reproche ses liens familiaux avec un géant du transport maritime, l'armateur suisso-italien MSC, numéro 2 mondial du fret maritime et connu du grand public pour ses activités dans les croisières. La cofondatrice du groupe, Raffaella Aponte, est une cousine germaine de la mère d'Alexis Kohler et ce lien a potentiellement posé problème à plusieurs reprises. Entre 2010 et 2012, Alexis Kohler a été le représentant de l'État au sein des chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire, entreprise qui construit une grande partie des bateaux de MSC. Le haut fonctionnaire était donc censé défendre le constructeur tout en ayant des liens avec son principal client. C'est exactement ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Mediapart, qui a révélé l'affaire en 2018, affirme qu'Alexis Kohler n'a jamais prévenu le conseil d'administration des chantiers de l'Atlantique de ses liens familiaux avec MSC. Alexis Kohler, lui, dit qu'il avait prévenu oralement ses supérieurs hiérarchiques à Bercy. La justice devra donc décider si oui ou non Alexis Kohler a manqué à un devoir de transparence.
Et Alexis Kohler était aussi à l'époque administrateur du port du Havre.
Oui, en tant que dirigeant cette fois de l'agence des participations de l'État, il affirme que lorsque le port du Havre devait prendre une décision qui concernait MSC, eh bien il se mettait à l'écart des négociations pour éviter justement tout conflit d'intérêts. Sauf que Mediapart a publié des procès-verbaux montrant qu'il a participé à des délibérations et au moins voté une fois en tant que fonctionnaire en faveur de la société de ses cousins. Le journal Le Monde raconte qu'à l'époque, Alexis Kohler et sa famille passaient tout leur mois de juillet sur un yacht privé qui appartient à MSC en Grèce et en Croatie. Rien ne dit qu'il puisse y avoir un lien entre ces vacances et des décisions prises, mais il y a des règles justement pour éviter qu'on puisse en douter, et l'on ne sait pas si ces règles ont bien été respectées.
Mais c'est pas la seule période sur laquelle la justice enquête. Hein.
Non, il y a une deuxième période. Lorsqu'Emmanuel Macron a quitté Bercy pour se lancer dans la course à la présidentielle, son directeur de cabinet, Alexis Kohler, a dû se chercher du travail. Et en août 2016, il est embauché comme directeur financier de MSC, mais il doit d'abord obtenir l'accord de la commission de déontologie de la fonction publique, ce qu'il obtient, alors que cette même commission, deux ans plus tôt, lui avait refusé ce passage de Bercy vers le privé. Là encore, la justice devra vérifier si cette commission avait bien reçu toutes les informations qu'elle devait recevoir. Alexis Kohler affirme qu'il n'a rien à se reprocher dans aucun de ses dossiers, qu'il n'a commis aucun délit, et il est naturellement présumé innocent. L'Élysée a fait savoir hier que malgré cette mise en examen, il reste secrétaire général et bras droit du président.
Et d'ailleurs, l'opposition appelle à la démission d'Alexis Kohler. Vous entendrez tout à l'heure Marine Le Pen, qui est mon invitée. Marine Le Pen sera l'invitée d'RMC BFM TV. Pour le face-à-face, ce sera à 8h30. A tout de suite pour la météo de journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.